23 janvier 2011. Si vous êtes là pour la toute première fois, je vous demande vraiment de vous sentir à l'aise parmi vos frères et sœurs dans le Seigneur. Ensemble avec les enfants aujourd'hui, qui vont prendre part à cette première partie de culte, nous voudrions tout particulièrement souhaiter la bienvenue à Charles et cette grande équipe qui va nous accompagner aujourd'hui dans l'adoration et les moments de louange. Notre message du jour sera apporté par notre pasteur Roger, et ce message sera axé sur la grâce de notre Dieu, source de surprise et source de paix. Et je suis sûr que le Seigneur a un message pour chacun d'entre nous ce matin. Ainsi, en guise d'introduction de ce culte, je voudrais vous lire un texte de l'apôtre Paul qui s'est adressé à Tite dans son deuxième chapitre à partir du verset 11 à 13. Comme vous le voyez déjà sur la diapositive, en effet, la grâce des dieux s'est révélée comme une source du salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris des dieux et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine du respect pour Dieu. En attendant que se réalise notre bien-espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voici rassemblés ce matin dans ce lieu de culte pour pouvoir t'écouter. Chacun est venu avec ses problèmes, ses préoccupations, ses questions, prêt à pouvoir trouver des réponses auprès de toi. Père, nous voulons donc t'inviter ce matin pour prendre la direction de ce culte. Saint-Esprit, nous voulons te demander de pouvoir parler à chacun de nous. Seigneur notre Dieu, pendant ce culte, nous allons te chanter des chants de gloire et de louange. Ta parole nous dit que tu es digne de recevoir nos louanges. Et Seigneur, c'est dans cet esprit que nous voulons t'adresser toutes nos louanges. Pendant ces cultes, Seigneur, nous allons t'adresser des prières. Daigne agréer ces prières, Seigneur. Pendant ces cultes, Seigneur, nous allons écouter ta voix. Nous te demandons de préparer nos cœurs. Merci parce que dans ton omniscience, Seigneur, tu connais le besoin de chacun de nous. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de parler et de combler les vides dans nos cœurs. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier particulièrement pour les enfants qui vont t'adorer ensemble avec nous, Seigneur. Oui, dans ta parole, Jésus, quand tu étais sur terre, tu nous as demandé de ressembler aux petits-enfants, Seigneur. C'est pas pour rien. C'est parce que les enfants, ils sont fidèles, ils écoutent, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ensemble avec les enfants, nous mettre devant toi pour pouvoir t'écouter. Père, nous voulons prier également pour ceux qui sont malades et ils ne peuvent pas nous joindre aujourd'hui. Que ça soit à l'hôpital ou à la maison, notre Père, nous te demandons d'être à côté d'eux, de les encourager, de les fortifier, Seigneur, quand tu étais sur terre, tu as opéré des miracles à distance, tu as guéri des malades. Nous te prions pour eux également. Ceux qui sont en voyage, ceux qui sont en prison, où qu'ils soient, Seigneur, nous voulons te recommander tous les nôtres. Nous voulons te prier également pour les frères et sœurs dans le monde entier qui aujourd'hui vont parler de toi, t'écouter, Seigneur. Ensemble, nous voulons nous mettre à ta disposition pour que tu nous parles, Seigneur. Glorifie ton nom, car nous te le demandons au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur soit loué. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Ah bien? Encore une fois, c'est du côté droit que ça va mieux que du côté gauche. Alors, on va chanter, on va commencer à chanter quelques chants. Et le premier, il est simple. Ta fidélité, Seigneur, dure chaque jour. Tu prends soin de tes enfants, les comblant d'amour. Vous voulez chanter ça avec nous? Que ce matin tu es là, si cette congrégation était là pour juste se voir et que tu n'étais pas là, en fait ça ne servirait absolument à rien. Nous serions là pour rien. Mais Seigneur, tu nous as rachetés. Tu nous as rachetés à grand prix. Et c'est une grâce, Seigneur, de venir ensemble, te louer, te glorifier. Et te remercier parce que tu nous as rachetés. Nous sommes là pour ça, Seigneur. Nous sommes ton peuple. Gloire à ton nom. Amen.
Rendons grâce.
Si l'ennemi vient nous fermer et veut nous envahir, c'est le Dieu puissant qui combattra et la victoire est dans ses mains. Thank you. sa sainteté, pour sa sainteté, pour sa sainteté, sa splendeur.
Maintenant, sans les instruments, j'aimerais vous écouter.
Rendons grâce à Dieu, car il est bon, car son amour demeurera jamais. Rendons grâce, louons le Seigneur, pour sa sainteté et sa splendeur. Et si l'ennemi vient nous cerner et veut nous envahir, c'est le Dieu puissant qui combattra, et la victoire est dans ses mains. attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Sois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Oh, ma reconnaissance,
venu au culte ce matin. Dites-moi, est-ce qu'il y en a un qui peut me dire où on est? On est où? On est dans la maison de...
Oh, bravo.
Et qu'est-ce qu'on fait dans la maison de Dieu?
J'ai pas compris.
On fait quoi?
On prie. Bravo.
Et maintenant, vous allez faire quoi alors? Vous allez aller où? Dans les classes, en bas. Et puis, et on va vous raconter quoi? Qu'est-ce qu'elle va vous raconter, la maîtresse d'école du dimanche? Ah, c'est le maître. Oh ben, aujourd'hui, j'ai tapé la maîtresse. Est-ce qu'elle va faire moins le pitre que moi? Hein? Seigneur, je veux te remercier pour ces enfants. Je te remercie parce qu'ils sont le don de toi matérialisé, ils sont ta grâce. C'est vrai que c'est un honneur et une grâce d'avoir des enfants et je te demande vraiment ton onction sur eux. Ils sont notre avenir, ils sont l'avenir de l'Église. Seigneur, je veux te demander vraiment de poser ta main sur eux ce matin. Je veux te demander que leurs oreilles spirituelles soient ouvertes, qu'ils reçoivent ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Alors les enfants, bonne leçon. À tout à l'heure.
Je vais vous faire la lecture du texte que Roger va utiliser pour nous partager la parole de Dieu. Et ce texte se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 29. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, je suis curieux, qu'est-ce que le Seigneur va dire à travers notre serviteur, notre pasteur aujourd'hui. Et je crois que à la fin de la lecture, vous risquez d'être dans le même état que moi. Je suis vraiment curieux. Ok, Genèse 29, à partir du 16e verset jusqu'à la fin, 35. Les épouses de Jacob. Ce n'est que les débuts, hein. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban, « Je te servirai pendant 7 ans, et si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. » Très bonne idée. Et Laban répondit, « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. » Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel et ses années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis il dit à Laban, « Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. » Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Je crois que vous commencez. Je m'excuse. Je m'excuse. Alors il dit à Laban, que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé? Laban répondit, chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Même en Afrique, c'est comme ça. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. Il est vraiment patient. Jacob accepta. Il termina cette semaine-là avec Léa et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante, Bila, 4 dames. Jacob s'unit également à Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il travailla encore 7 autres années chez Laban. L'Éternel vit que Léa était mal aimée et il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Voyez un fils, car elle dit, l'Éternel a vu ma misère. À présent, mon mari m'aimera. Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et m'a encore accordé celui-ci. Et elle le nomma Siméon. Il entend. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. 3e, je crois que vous comptez très bien. Elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi et il s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et un fils. Elle s'écria, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle nomma Judas, il loue. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Nous allons encore chanter un chant avant de passer à ce message. Je crois que vous êtes tous curieux d'attendre ce que le Seigneur va nous transmettre ce matin.
Que l'or et l'argent purifient nos cœurs, en moi aussi pur. Que l'or fût fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part. Toi Seigneur, oui je choisis d'être saint, mis à part pour toi mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Aussi pur que l'or du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi Seigneur, oui je choisis d'être saint. Pour toi mon seul maître est prêt à t'obéir.
J'aimerais juste ajouter deux lectures à cette lecture où on va s'arrêter dans l'Ancien Testament. Un verset dans l'Épître aux Hébreux, on le sait bien, en effet, notre Seigneur est issu de la tribu de Juda. On le sait bien, notre Seigneur est issu de la tribu de Juda. Et on le sait bien parce qu'entre autres, il y a la généalogie qui démarre le Nouveau Testament. Tableau généalogique ou livret de famille de Jésus, le Christ, descendant David et d'Abraham, Isaac, descendant d'Abraham, Jacob, descendant d'Isaac, et Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. Une descendance. Nous aimons chez nous, et j'imagine que c'est le cas chez vous, sortir les albums de photos. C'est assez surprenant, mais même grands ados, plus âgés encore, c'est un plaisir manifeste pour nos enfants de sortir les photos quand ils étaient bébés. De regarder ça et puis de suivre le parcours. C'est une joie, je crois, un intérêt pour toutes les familles. Et j'aimerais vous rappeler, peut-être certains d'entre vous se souviennent, qu'on a suivi une famille à partir de l'été, dans l'automne. C'était la famille de Joseph. Et quelque part, c'était son livret de famille. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, en fait, que ce livre de la Genèse et ces chapitres que nous avons considérés, l'histoire première n'est pas du tout de Joseph. Si on s'était lancé dans Genèse 37, et qu'est-ce qu'on lit? Le début de l'histoire de Joseph. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Alors, est-ce qu'il s'agit de Joseph ou de qui s'agit-il? Il y a 15 jours de ça, Sylvain nous a introduit dans le livre de la Genèse, de la création, etc. Et nous le savons tous, en observant notre univers, que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus merveilleux que n'importe quel maître horloger pourrait envisager, parlons pas de fabriquer. C'est, nous habitons, il a utilisé le terme « finely tuned universe », donc ça veut dire que c'est tellement complexe dans sa conception. Et nous voilà placés là-dedans. Quelle est ma place là-dedans? Qui suis-je? C'est la grande question qui est posée. Et voilà qu'on a considéré Joseph dans cet univers tellement bien conçu. Et puis on arrive à la fin de la Genèse et dans ce monde conçu, pour donner une abondance, qu'est-ce qu'on trouve? La famine. Quelque chose a foiré entre-temps. C'est la réalité de la situation de cette famille de l'humanité, de la race humaine. Et l'histoire principale, en second plan, qu'il faut surtout pas louper, c'est que Dieu a dit qu'il va donner une descendance. Il va avoir, Genèse chapitre 3, verset 15, un jour, une descendance née de la femme. Alors c'est ça notre piste en traversant la Genèse. Le souci de Dieu d'introduire ce germe qui sortira de cette race, de l'introduire dans l'histoire de l'humanité. Il y a les épisodes passionnants d'Abraham et Sarah. Est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça va pas jouer? On enchaîne avec Isaac et Rebecca. Même problème. Enfin arrive Ésaü et Jacob, Ésaü qui dit « passe-moi la casserole » à son frère, il ne se soucie pas beaucoup pour cette question de descendance. Et maintenant, on arrive dans l'histoire de la famille de Jacob. Tony a laissé sous-entendre qu'avec 13 enfants et 4 femmes, ça n'allait pas être simple. Et c'est la réalité. Nous vivons dans un monde extrêmement complexe. Donc, ce serait illusoire, bête de penser qu'il va avoir des solutions simples, faciles. Mais, en lisant ces passages, et en lisant notre texte où on va arriver, la grande question, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire? On peut poser une autre question, où est-ce que Dieu est en tout ça? La pauvre Léa. Mais je crois que la question beaucoup plus constructive, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que vous avez relevé la note théologique, si je peux le dire ainsi, dans notre passage? Une seule remarque, il ne faut pas, surtout pas passer à côté, sinon on est sur la mauvaise piste. Personne se lance. Alors, on est dans Genèse 29. On a entendu ce récit, et qu'est-ce que Dieu dit? Verset 31, qu'est-ce que c'est dit sur Dieu? L'Éternel vit que Léa était mal aimée. C'est ça qu'il ne faut pas passer à côté. De ça, c'est dit clairement. On va avoir beaucoup de théories, comment les choses devaient se passer, mais ça, c'est écrit noir sur blanc. L'Éternel vit que Léa était mal aimée. Le regard de Dieu s'est posé sur la belle Rachel. sur la malheureuse Léa. J'aimerais s'arrêter un moment sur Léa, cette maman mal aimée. D'abord, elle n'était pas gâtée avec son papa. Hein? Il voyait chez ses filles que l'intérêt, le profit possible. Cette année de boulot gratuit et encore cette année. Et au moment des noces, soi-disant de Rachel, après un festin sans doute bien arrosé, il prend sa fille Léa, je ne sais pas ce qu'il fait avec Rachel, la pousse devant, dans la chambre des noces, et dit, ma fille, vas-y. Et vous imaginez, on a le récit au verset 25, comment Léa se sente le lendemain matin, qu'elle entend son mari dire, mais c'est pour la petite sœur que j'ai fait les 7 ans. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Il faut dire que Léa n'avait pas les atouts de sa petite sœur, qui était, selon notre texte, bien faite et d'une grande beauté. Nous savons, en tout cas nous, les hommes savons, que l'espèce masculin réfléchit davantage avec les yeux qu'avec le cerveau. Donc, le combat sera toujours inégal pour la pauvre Léa. Léa, donc, reste toujours au second plan. Quand il s'agit de Jacob de vouloir prendre la fuite, quand il a amassé sa fortune, il va chercher d'abord Rachel dans les champs, ensuite Léa. Toujours au second plan, sauf quand il s'agit d'affronter le danger quand son frère Ésaü arrive avec 400 hommes. Là, c'est Léa qui est placée devant. Léa, qui se retrouve seule, jour après jour, pour ne pas dire nuit après nuit, mois après mois, année après année. On le sait parce que son fils Ruben, devenu assez grand pour partir chercher des choses dans les champs, il revient avec ses pommes d'amour, mandragore dans certaines traductions. Rachel aperçoit la chose. Elle pense, ça va faire l'affaire pour régler son problème de stérilité. Elle dit, alors, il dit à sa sœur, alors aujourd'hui, je vais dire à mon mari d'aller chez toi cette nuit. On imagine un petit peu l'ambiance sous les tentes. 30, 15, est-ce qu'il ne te suffit pas de m'avoir pris mon mari? Rachel lui dit, eh bien, Jacob couchera avec toi cette nuit, en échange pour des pommes d'amour de ton fils. Léa sortit à la rencontre de Jacob, tu viendras vers moi cette nuit. J'ai payé le prix pour t'avoir. Côté enfant, est-ce que là, il y a quelque réconfort? Le premier-né, Ruben, il part coucher avec la concubine de son mari Jacob. Un pas de plus vers la désintégration de cette famille. Siméon et Lévi, 2 et 3, tellement bagarreur que tout le voisinage est sur le dos de la famille. Et Judas alors, il est parti courir les filles du pays. Sans oublier que la petite dernière, Dina, va subir un abus. On n'ose pas penser ce que vivait Léa. Situation difficile, désespérée. Sauf que l'Éternel vit que Léa était mal aimée. Est-ce que Léa a oublié au milieu de tout ça que le regard de l'Éternel s'est posé sur elle? Ne désespère pas, Léa. L'Éternel a un avenir en vue pour toi et pour tes semblables. Léa, la maman mal aimée, on peut dire, et Judas, le fils mal barré. Il a grandi dans la tente où le papa était peu à la maison. Que sa maman n'était vraiment pas aimée, ça, il a vu lui aussi. Il vivait parmi les tentes à l'ombre du beau Joseph. Beau, oui, allez demander à Madame Potiphar. Et le père ne cachait pas sa préférence pour ce petit, le frère cadet. Comment il vivait ça, Judas? Mais maintenant, avec Joseph écarté, en avance dans l'histoire, qui allait devenir chef de file de la famille? Judas, peut-être, il a eu la bonne idée en tout cas, de vendre son frère. Avec Joseph écarté, qui allait assurer la continuité? Donner cette descendance. Si vous lisez le chapitre 38, vous verrez les efforts maladroits de Judas dans ce sens. D'ailleurs, sa belle-fille, Tamar, qu'on rencontre plus tard, semble beaucoup plus se préoccuper de cette histoire d'une descendance que Judas. Oh, bref, rien de très prometteur en tout ça. Qu'en est-il du projet de Dieu, l'histoire en parallèle? Mais attendez, Judas revient à la maison. Dieu, derrière tout ça, a un projet de famille en préparation. Et son choix s'est porté sur toi. Où est-ce que nous en sommes concernant le projet de Dieu? Est-ce que aujourd'hui, c'est un peu, il n'y a pas de sortie pour moi à cause de ce que j'ai vécu dans mon passé, ce que j'ai subi en cours de route? C'est vraiment trop injuste. Dans un monde endommagé, qui a foiré, il y a des gens abîmés. Et nous en faisons partie. C'est une évidence. Mais la bonne nouvelle, c'est une histoire, qu'il y a une histoire parallèle où Dieu, dans le secret, est à l'œuvre. C'est une chose de faire un constat que les choses vont difficilement, mal, très mal. Mais en faisant ce constat, il faut se rendre compte qu'il y a l'invitation d'entrer et devenir acteur de ce que Dieu est en train de faire. Pour des mal-aimés, il y a un avenir. Pour une race mal barrée, Dieu offre une espérance. Et soit on est bloqué dans un raisonnement cause et effet, ça m'est arrivé, donc je serai toujours comme ça. Ou on entre dans ce chemin qui nous propose un avenir, comme Dieu a proposé un avenir à Léa et à Judas. Ou c'est que de la promesse, vous me dites peut-être. Mais une promesse qui offre une espérance qui nous sort, qui nous relève au-dessus de nos circonstances d'aujourd'hui. On n'est pas bloqué pour toujours dans un passé malheureux. Parce que, et uniquement parce que Dieu a posé son regard sur nous. Et ça ouvre des perspectives toutes nouvelles. Dieu voit, Dieu vit que Léa était mal aimée. Dieu voit nos circonstances. Il entend et il agit. Cette fois, je louerai l'Éternel, s'écrie Léa à la naissance de Judas. Elle se lève au-dessus de ces circonstances tellement défavorables et le nom des siens sera inscrit sur les portails éternels de la cité céleste. Elle est plus juste que moi, s'écrie Judas, quand Tamar envoie sa carte de crédit quand elle est sur le point d'être brûlée suite aux accusations du beau-père. Elle est plus juste que moi. Et Judas devient ainsi le premier de la famille à reconnaître ses torts. L'éternité sera peuplée avec ses semblables. Parce que le choix de Dieu s'est porté sur lui. Tony, j'espère que vous n'êtes pas déçu, hein. On a visité une famille et on a vu quelques détails d'une famille dysfonctionnelle, mais dans laquelle Dieu a décidé de susciter une descendance, un germe qu'on voit pas, à peine, aussi petit qu'un grain de moutarde, mais qui un jour va remplir la terre entière. Il y a différentes théories quand ce livret de famille était mis par écrit. Ça ponctue l'Ancien Testament. Peu importe, c'est pas notre propos de ce matin. Ce qui est certain, que cet album de photos des ascendants s'est posé longtemps, avant que celui qui devait venir est venu. Ça, c'est clair. Cette descendance de la femme, fils de la promesse, fils d'un projet qui a germé dans un terreau si peu prometteur comme une femme du nom de Léa, comme un homme du nom de Judas et sa tribu. La bonne nouvelle, c'est que c'est dans la tente de Léa que le Christ a choisi d'habiter. C'est que c'est dans la tribu de Judas que notre Seigneur Jésus, nous le savons, dit l'auteur aux Hébreux, que le Seigneur Jésus a choisi d'élu domicile. Avec Joseph, on s'était posé la question, est-ce qu'il était envoyé ou est-ce qu'il était vendu? Est-ce que ce matin, on a eu la bonne lecture des événements, de la Genèse? Quelle est la bonne lecture de ma vie, de mon parcours? Elle a été dictée par les circonstances malheureuses de cette vie, ou elle a été dirigée par une main invisible mais sûre? Dans un monde en détresse, Dieu est en train de forger une famille unie. Avec des Léa, des mamans mal aimées. Avec des Judas, des fils, une race mal barrée. Parce que il a un avenir en vue pour chacun. L'explication? Inexplicable? Non. Notre note théologique, l'Éternel a vu et son regard s'est posé sur nous. L'Éternel a agi et son choix s'est porté sur vous. Et sur moi. Bloqué dans le passé ou en marche vers un avenir fait d'espérance. Quelle est la bonne lecture? Je propose de prier. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous voyions comme toi tu vois. Donne-nous à entendre quand tu nous parles. Garde-nous d'être submergés par les circonstances de nos vies qui nous enferment dans l'abattement, le découragement, le désespoir. Aide-nous à lever notre regard, contempler la cité céleste et garder fermement cette espérance que nos noms aussi sont écrits dans ton livre, livret de famille. Béni sois-tu parce que nous ne sommes pas abandonnés dans un univers impersonnel. Nous sommes aimés de toute éternité, par un Dieu d'amour. Amen.
Je te donne ma vie pour toujours.
L'Éternel vit que Léa était mal aimée. Et il a fait grâce à Léa. À travers cette génération, voilà que l'humanité tout entière a été sauvée par Jésus-Christ. Je vous invite à passer temps de prière. Je ne sais pas dans quel état vous étiez depuis que vous êtes né. En 2010, nous voici au seuil d'une nouvelle année en 2011. La grâce du Seigneur, quel que soit notre état, est sur nous. Son regard est sur nous. Passons quelques temps de prière, librement. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps. Nous voulons également te dire merci pour ce message. Seigneur, tu as été merveilleux et il t'a plu de pouvoir choisir cette personne qui s'est retrouvée complètement déconsidérée avec ses enfants. Mais tu as transformé le cours de l'histoire à travers ces chaos. Voilà que Jésus-Christ est sorti. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Je crois que vous êtes tous satisfaits comme moi. Et à travers ce message, nous avons vu comment le Seigneur peut vraiment jeter son regard, même sur ce que le monde déconsidère, ce que le monde à qui le monde n'accorde aucune importance. Et c'est ça l'important, l'essentiel de ce message. Merci beaucoup, Roger. C'était un grand défi et nous te remercions. Nous remercions le Seigneur qui a parlé à travers toi. Nous allons passer maintenant à la Sainte Cène et je vais inviter Roger et Fanny qui vont m'aider pour cette deuxième partie de notre culte. Et avant de lire le message en rapport avec la Sainte Cène, je vais juste partager avec vous ce que les commentaires de Francis Ballet de l'Église protestante évangélique de Nice sur la grâce, comme nous venons de suivre. Grâce, un mot que le chrétien ne pourra jamais oublier. Il exprime la faveur imméritée de Dieu. Dieu pardonne. Dieu oublie. La grâce de Dieu dans une vie, c'est comme le soleil qui transperce les nuages et répand la lumière. Chaleur et donne envie de vivre. La grâce de Dieu est à notre portée. Elle est manifestée elle ne se réduit pas à quelques mots. Elle est fondée sur des faits, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dieu n'a pas voulu dire son amour seulement. Il a éprouvé en envoyant son Fils dans le monde mourir pour nous. Ce n'est pas l'appel au devoir qui peut changer quelque chose, mais la manifestation de l'amour. Quand nous comprenons les richesses de la grâce, nous apprenons à penser et à vivre d'une autre manière. La grâce nous enseigne à dire non à ce que Dieu désapprouve et à dire oui à sa volonté. La force pour vivre dans ce monde, selon la pensée de Dieu, ne vient pas de « tu ne dois, tu dois, tu ne dois pas », maintes fois répété, mais d'un « je ne te condamne pas, va, ne pêche plus ». La grâce est comme un ressort qui nous porte en avant dans la joie de la reconnaissance envers celui qui nous aime de si grand amour que nous pouvons autrement que chercher à lui faire plaisir.
Nous allons lire la citation de la Sainte Cène, le texte d'un Corinthiens, chapitre 11, verset 23 au verset 26. C'est un texte tellement connu que des fois, on y paye plus attention. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse les lire tout en réfléchissant au message qu'il veut nous communiquer. Est-ce un texte seulement de dimanche où nous pouvons aussi penser à Jésus dans nos quotidiens? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il les rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. »
Tu as revêtu notre humanité, nous l'avons chanté. Nous reconnaissons que tu es Dieu devenu homme pour donner ta vie en sacrifice. Et tu nous invites à ta table. Quel grand amour pour nous, des mal-aimés, nous qui avons pris, fait fausse route. Tu viens à notre rencontre, tu nous relèves et tu nous mets en route, en chemin avec toi, Seigneur. Nous venons à ta table, conscients de ce que tout est de toi. Et nous te bénissons de ce que tu as tout accompli, Seigneur. Amen.
Que deux personnes peut-être viennent nous aider pour distribuer la coupe, s'il vous plaît. Merci. Nous allons passer maintenant aux offrandes. Et pour ça, nous allons chanter le cantique numéro 460.
notre roi est tout.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour toutes tes bénédictions envers nous. Nous voulons te demander de recevoir ces offrandes comme un signe de notre amour envers toi, pour tout ce que tu as fait. Seigneur, plus que cet argent, tu aimes notre cœur. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons vraiment te confier notre cœur. En te confiant nos cœurs, l'argent va découler. Nous te demandons de pouvoir le bénir, de bénir cet argent, Seigneur, pour qu'il puisse contribuer à l'avancement de ton œuvre ici sur terre. Que ton nom continue à trouver gloire. En Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Veuillez vous asseoir et nous allons passer aux annonces. Et Lorraine et d'autres, éventuellement, peuvent passer.
Bonjour. Je vais commencer par les infos de la semaine, qui concernent la semaine prochaine. Vous avez demain, lundi 24, le groupe de prière et de partage pour hommes, s'offrira à 18h30. C'est juste. Après-demain, mardi 25, l'étude biblique sur les Philippiens, chapitre 3, et c'est à 20h15 ici. 29h30 pour info, le week-end prochain, en fait, il y a le week-end de caté, donc on pense bien à eux. Week-end de ski, j'imagine. Donc, luge. D'accord. Et pour ceux qui sont intéressés, le samedi 29, il y a un café-conférence à la librairie L'Eau Vive. On m'a dit qu'il y avait des dépliants. J'ai essayé de voir sur le présentoir, mais je les ai pas trouvés. Si, ils y sont? D'accord. Donc les dépliants pour donc le café conférence à la librairie L'Eau Vive sont sur le présentoir. Et je vous informe aussi que Blaise a mis l'électron numéro 18 sur le présentoir et sur le site. Voilà. Pour les infos à plus long terme, pour le dimanche 6 février, les saillants seront là et ils présenteront un peu leur travail qu'ils sont en train de faire. Et le culte sera suivi d'un repas canadien. Donc soyez tous les bienvenus. Et encore un peu plus loin, on vous demande d'agender le week-end du 13 au 15 mai. Donc week-end de Pentecôte. Non, pas du tout. Il y a 3 jours, 13, 14, 15. Donc ça commence vendredi soir. Week-end de l'église. Il y a une petite équipe qui est en train de vous concocter ce week-end. Donc ce sera une bonne équipe, une bonne ambiance, donc réservez bien cette date, du 13 au 15 mai. Et dans les divers, on transmet nos félicitations à la famille Heiniger, Claude et Christiane qui ont accueilli une nouvelle petite fille dans leur famille. Donc c'est chez Marc-Henri et Nathalie qu'elle a vu le jour. Elle s'appelle Nahara. Elle est née le 19, sauf erreur dans la nuit. Elle va bien et je crois qu'elle fait le plus grand plaisir de ses deux grands frères, Eden et Mai. Donc voilà, félicitations. Et c'est tout bon pour moi.
Bonjour à tous. Je voulais venir ce matin devant vous parce que j'avais deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on est sorti vivant du camp de ski. Ça s'est très bien passé pour nous. Pour eux, je ne sais pas, mais pour nous en tout cas. Et la deuxième, c'est que le budget est équilibré. Voilà.
Pour le camp de la Drôme, il y a bientôt les inscriptions et je crois qu'il est très vite complet, donc ne tardez pas, les inscriptions, ne tardez pas pour vous inscrire pour ceux que ça intéresse, pour le camp de la Drôme.
J'aimerais rappeler pour tous ceux qui d'ailleurs ont reçu ensemble ici sur la commune de Berlin, et donc une manifestation importante à partir de jeudi sur solidarité. Nous, en tant que SFA, nous sommes présents avec un stand, il y a des conférences et des films, ceux qui ont le bulletin ensemble, vous avez tous les détails avec les horaires dans ce bulletin. Peut-être que vous ne l'avez pas regardé, mais c'est une manifestation importante. Moi, je suis très fier que Genève ose organiser quelque chose de semblable. C'est la Fédération Genevoise de coopération. Alors, certainement, regardez, j'avais préparé des petits prospectus de la première page, j'ai oublié, et vous avez tous le bulletin chez vous. Alors, vous pouvez consulter l'horaire.
Voilà. Ils sont là aussi, alors, si vous avez des questions, le plus simple, c'est de vous adresser à Armand suite à notre culte qui arrive à sa fin. Et si vous voulez bien vous lever pour la bénédiction. Que je tire du psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Et que ta forteresse sois le Dieu de Jacob, qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite, qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes, qu'il permet que sa face brille sur vous. Allons dans la paix de notre Dieu. Amen.